Il est 18h sur France Culture et le journal est présenté par Oana Favennec. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Emmanuel Macron acclamé par la foule au Liban. À peine l'avion présidentiel posé, le président français dit vouloir organiser l'aide internationale et exhorte le gouvernement libanais à mener des réformes, emboîtant le pas de la contestation citoyenne. Dans ce journal, nous prendrons également le pouls de la situation dans les hôpitaux de Beyrouth, 48 heures après la violente double explosion qui a fait 138 morts selon un dernier bilan provisoire. Un insecticide interdit en 2018 pourra être à nouveau utilisé. Les producteurs de betteraves sucrières le demandaient pour sauver leur prochaine récolte. L'amitié franco-libanaise passe par une réforme en profondeur du Liban. Le président français a fait passer le message à Beyrouth aujourd'hui, 48 heures après l'explosion au port qui a détruit la moitié de la ville. Visite sur les lieux, rencontre avec les secours, promenade dans les rues sinistrées. Emmanuel Macron n'a pas ménagé sa peine pour montrer la solidarité de la France. Il a même dépassé les lignes habituelles d'une visite de chef d'État. À Beyrouth, Nathanaël Charbonnier.
Emmanuel Macron, président des Français, mais aussi président des Libanais. C'est vraiment la question que l'on peut se poser. Vous savez, dans le centre de Beyrouth, déjà, on a entendu des appels du genre « on veut être français », avec cette demande de la population en colère pour que le président français ne les laisse pas tomber. Message entendu visiblement, car Emmanuel Macron a dit qu'il souhaitait être associé à la gestion des secours, mais aussi car il a annoncé qu'il reviendrait au Liban dès le 1er septembre prochain. Le président français a aussi parlé avenir en expliquant directement au président libanais et autres responsables politiques qu'il était urgent d'entreprendre des réformes. Lutte contre la corruption, réforme du système politique, réforme du système bancaire. Un message clair mais sans concession que l'on peut traduire aussi par « pas de réforme, pas d'argent ». On le voit, le président français est allé loin dans l'engagement de notre pays pour aider le Liban, pour une ingérence jugée visiblement indispensable, vu l'état du pays.
Nathanaël Charbonnier à Beyrouth pour France Culture. Nathanaël Charbonnier qui a accompagné le chef de l'État français tout à l'heure dans les rues d'une ville dévastée, au contact d'une population à bout.
On est à bout de nerfs. Le pays est en ruine. Cette clique nous a volé. Je suis là aujourd'hui pour vous dire d'abord la solidarité, l'amitié du peuple français et aider le peuple libanais. Je suis là et c'est mon devoir pour vous aider en tant que peuple, pour vous apporter les médicaments, le soutien, de quoi vous nourrir et de quoi vous aider à reconstruire. Ce que je vous garantis, c'est que cette aide, elle sera transparente, elle ira sur le terrain, elle sera garantie pour qu'elle n'aille pas dans les mains de la corruption. Je veux que vous ayez un droit de regard sur cette aide.
Emmanuel Macron a touché un point sensible. Comment aider le Liban alors que le clientélisme et la corruption gangrènent l'administration libanaise? Aider les Libanais sans enrichir les corrompus, tel est le dilemme, Christian Chéneau.
Depuis 30 ans, des milliards de dollars d'aide internationale se sont déversés sur le Liban, mais une bonne partie s'est évaporée dans la poche de quelques-uns. Les conférences d'aide se sont succédées avec Paris 1, Paris 2 et Paris 3. En 2018, il y a eu la conférence Cèdre et ses promesses d'environ 11 milliards de dollars, mais l'argent n'a pas été décaissé car entre-temps, le système financier et bancaire libanais a explosé. Pour Charbel Naas, économiste et l'une des figures de proue de l'opposition, il sera compliqué de soutenir le Liban sans changer radicalement le système actuel.
Ce n'est pas la même chose, si vous voulez, qu'un séisme ou qu'une éruption volcanique. C'est tout le système qui est tombé dans ses côtés administratifs, financiers, judiciaires. Évidemment, l'aide humanitaire est toujours bienvenue, mais il faut éviter que ça n'aille encore dans les poches des brigands en place, parce que là, évidemment, ils sont encore plus affamés que d'habitude.
Techniquement, il est possible de mieux contrôler l'aide étrangère, explique un haut fonctionnaire libanais. Il faut des cahiers des charges stricts imposés par les bailleurs de fonds, surveiller de près les appels d'offres et les adjudications des contrats et écarter les acteurs économiques qui ont une affiliation politique ou qui sont notoirement corrompus.
À Beyrouth, deux jours après la catastrophe qui a fait au moins 138 morts, les équipes de secours continuent de chercher les survivants. Les blessés, au nombre d'environ 5000 lors du dernier décompte, engorgent les hôpitaux. Reportage à l'Hôtel-Dieu de Beyrouth avec Laure Stéphan.
Depuis mardi soir, Simon dort à peine. Il passe son temps à l'hôpital Hôtel Dieu où son frère Charbel a été pris en charge après avoir été grièvement blessé à la main. Ce dernier a été opéré. Simon est soulagé qu'il aille mieux. Il est encore sous le choc de la nuit de mardi quand il est parti à la recherche de son frère dans plusieurs hôpitaux.
J'ai cherché mon frère jusque parmi des gens morts dans des hôpitaux. Je cherchais, je ne savais rien, je n'arrivais pas à le joindre au téléphone. Et pendant que je venais vers cet hôpital, j'ai reçu un appel. On m'a dit « Charbel, c'est ton frère ?» J'ai dit oui. On m'a dit « Viens ici, il ne va pas bien. »
L'hôpital Hôtel Dieu a accueilli plus de 500 blessés, dont 20 à 30% de cas graves. Aujourd'hui encore, une dizaine de blessés plus légers ont été reçus aux urgences. Alors que la pression décroît, des patients hospitalisés moins prioritaires peuvent être soignés, comme Nairi, la grande-tante de Sarah.
Ma grande-tante devait être opérée hier, mais il y avait trop de pression sur le service chirurgical, donc ils ont priorisé les opérations. Elle a pu être opérée aujourd'hui et tout s'est bien passé, mais bien sûr, il y a beaucoup de tristesse et de tragédie dans ces murs. Je regardais les nouvelles, des gens enterrent leurs enfants.
Demain encore sera jour de deuil national au Liban.
Laure Stéphan à Beyrouth pour France Culture. Un cluster de Covid a été annoncé officiellement en Syrie, dans le camp de déplacés d'Al-Hol. 3 soignants testés positifs dans cette immense ville provisoire de plusieurs dizaines de milliers de personnes, un camp surpeuplé qui accueille notamment des familles du groupe de l'État islamique géré par l'administration kurde semi-autonome. Toujours par rapport à la Covid, sachez que la Norvège vient de repasser la France en zone rouge. Cela veut dire qu'une quarantaine sera observée par tout voyageur entrant dans le pays en provenance de l'Hexagone. Un naufrage de plus, un navire rempli de migrants qui s'est abîmé au large de la Mauritanie. Il y avait une quarantaine de personnes à bord, un seul a survécu. Les sauvetages de migrants en Méditerranée reprendront en août, annonce de Médecins Sans Frontières qui s'allie à l'ONG allemande Sea-Watch pour affréter un bateau, car plus aucun bâtiment ne navigue en ce moment dans les eaux méditerranéennes. Pauline Joss a joint Asiba Hadj Sarawi en charge des questions humanitaires chez Médecins Sans Frontières.
MSF va intervenir en tant que partenaire médical, principalement sur le Sea-Watch 4, en ayant à bord un chef d'équipe médicale, un docteur, une sage-femme et un ou une infirmière, en plus d'une personne chargée de la communication pour des soucis de transparence sur nos activités en mer et une personne responsable des affaires humanitaires. Et la raison pour laquelle MSF s'est retrouvé dans une situation où on trouvait impératif de revenir en mer, c'est la détérioration de la situation en mer et de la situation en Libye. On espère pouvoir prendre la mer et ce sera le voyage inaugural du bateau entre le 10 et le 15 août. Alors on est pressé par le temps parce que pour l'instant il y a zéro navire d'ONG en mer. Nos équipes, avant d'être sur le bateau, ont été en quarantaine. Ensuite, on a commencé à informer les autorités. Donc on agit en toute transparence, mais on espère pouvoir opérer sans obstruction. Sachant que malheureusement, les événements nous montrent que toutes les ONG précédentes qui sont retournées en mer entre avril et maintenant ont vu leur navire être mis sous séquestre.
Le navire de SOS Méditerranée, l'océan Viking, a été immobilisé en Italie début juillet. Ceux d'autres ONG sont également toujours bloqués. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés, entre début janvier et fin juillet, les tentatives de départ depuis les côtes libyennes ont augmenté de 91%. Les producteurs de betteraves ont eu gain de cause. Ils pourront jusqu'en 2023 utiliser des semences enrobées de néonicotinoïdes, un pesticide interdit depuis 2 ans car il agit sur le système nerveux des insectes et notamment des abeilles. Les producteurs alertaient depuis plusieurs semaines sur les invasions de pucerons verts qui transmettent la jaunisse, une maladie virale qui touche les betteraves sucrières et provoque de grosses pertes de récolte. Les producteurs demandaient donc au nouveau ministre de l'Agriculture la permission d'utiliser cet insecticide interdit encore un peu, le temps de trouver une solution. Ce matin, Julien de Normandie leur a dit oui, ce qui provoque à leur choix la colère des associations écologistes.
Cette réautorisation des semences enrobées d'insecticides sera très encadrée, promet le ministère de l'Agriculture. Elle le sera pour 120 jours seulement et accompagnée d'autres mesures, notamment une intensification de la recherche pour trouver des solutions alternatives via 5 millions d'euros dans le cadre du plan de relance. Les conditions d'usage seront très strictes, pas de pulvérisation et pas de culture à fleurs après avoir planté des betteraves traitées. Le ministère s'appuie sur un règlement européen qui permet de déroger aux interdictions d'insecticides en cas d'urgence et faute d'autres solutions. Or, pour François Veyrette de Génération Future, il existe bien d'autres solutions.
L'interdiction des néonicotinoïdes, elle est programmée depuis la loi biodiversité de 2016, c'est rentré en vigueur en 2018, sans dérogation pour la betterave, parce que justement l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire, a bien souligné qu'il y avait d'autres produits. Et aujourd'hui, ben, on redemande encore des dérogations 4 ans après, mais vous savez, ça fait 20 ans qu'on connaît la dangerosité des néonicotinoïdes. Donc en 20 ans, on se demande ce qu'a fait cette filière pour essayer de sortir de ce type d'agriculture. La réponse est à peu près rien, puisque aujourd'hui, on voit que le réflexe, c'est tout de suite d'aller demander une énième dérogation pour utiliser les insecticides les plus dangereux du monde.
C'est pour éviter, assure le ministère et les betteraviers, que la filière sucre française, qui représente 46 000 emplois et qui est la première productrice européenne, ne s'effondre. Une filière déjà très fragilisée par la fin des quotas européens de sucre.
Anne Lorchouin. Un policier du Mans est mort cette nuit en intervention, tué alors qu'il tentait de stopper un homme ivre de reprendre sa voiture. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, qui s'est rendu sur place dans la matinée, a eu ces mots. Il y a manifestement dans la société de plus en plus de refus de l'autorité, et qui n'est pas le fait de quelques délinquants professionnels, dirons-nous. Il est le fait d'une partie de la population qui ne souhaite plus respecter l'uniforme de la République. Fin de citation. En France aussi, certains s'inquiètent après le drame de Beyrouth. Selon les autorités libanaises, c'est l'incendie d'un entrepôt abritant une énorme quantité de nitrate d'ammonium qui aurait provoqué l'explosion. Près de Bordeaux, à Ambès, l'usine Yara a également l'autorisation de stocker des tonnes de nitrate d'ammonium. Elle s'en sert pour produire des engrais. Bernard Bancarel habite en face de l'usine, sur l'autre rive, à Mâcon. Il fut d'abord gêné par son bruit. C'est maintenant la sécurité qui l'inquiète.
Vous pouvez voir qu'ici, vous avez des dômes de stockage d'ammoniac, et à gauche de ces dômes, vous avez un hangar très important de stockage des engrais qui sont composés à base de nitrate d'ammonium qui a fait sauter la ville de Beyrouth. On essaie de nous rassurer en nous disant que ce nitrate d'ammonium ou ces composés à base de nitrate d'ammonium ne sont pas dangereux si ils ne sont pas exposés à de forts rayonnements dus à la chaleur ou à un impact qui viendrait percuter ces stockages, sauf que vous pouvez voir qu'ici, à Ambès, l'entrepôt des engrais à base de nitrate de la société Yara est au milieu d'une zone industrielle qui comprend X cuves pétrolières. Donc, je me dis que l'effet domino en cas d'incendie sur ces réservoirs très importants aurait certainement un impact même sur le stock de Yara.
Des propos recueillis par Laetitia Eveline de France Bleu Gironde. Un au revoir à Gisèle Halimi au son de Bella Ciao et de l'hymne des femmes. Une cérémonie laïque était organisée au cimetière du Père Lachaise aujourd'hui. Un dernier hommage à cette grande dame, avocate et féministe, décédée la semaine dernière à l'âge de 93 ans. Plusieurs centaines de personnes avaient fait le déplacement. Tableau cherche propriétaire. Un tableau confisqué par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et ramené en Allemagne depuis la Normandie par un soldat de la Luftwaffe. Son fils, aujourd'hui âgé de 90 ans, l'avait remis l'année dernière à l'ambassadrice de France à Berlin. Hier, nouvelle passation, l'œuvre s'est retrouvée dans les mains du directeur du Centre mondial pour la paix de Verdun. Une cérémonie suivie à Berlin par David Philippot.
Une cérémonie ouverte par Guillaume Aulagnier, numéro 2 de l'ambassade, qui évoque un moment important et émouvant.
Émouvant parce que c'est l'occasion de rendre hommage à un homme, Peter Forner, qui nous a hélas quittés en mai dernier, et qui, au crépuscule de sa vie, il y a à peu près un an, a fait ce geste de restituer cette œuvre.
Cette œuvre trône sur un présentoir, c'est une peinture à l'huile de Nicolas Rousseau de l'école de Barbizon, dont on ne connaît ni l'origine, ni le lieu de la spoliation, ni le propriétaire.
Est-ce qu'on connaît au moins son titre à ce tableau ?
Non, il s'agit d'un paysage de campagne, une rivière coule au milieu de deux bosquets d'arbres.
Julien Acquatella dirige l'antenne berlinoise du comité d'indemnisation des victimes de spoliation.
C'est une recherche qui est un travail de détective qui est vraiment très difficile, puisque le tableau, il n'est absolument pas certain qu'il ait été exposé dans un musée ou dans un château ou dans une institution publique, d'où l'intérêt de l'exposer à la vue du public, dans l'espoir de collecter en France d'autres témoignages qui pourraient nous apporter d'autres pistes.
La peinture a pris la route de Verdun, elle sera donc exposée au Centre mondial de la paix. Son directeur, Philippe Hansch.
L'objectif majeur, c'est bien que les propriétaires légitimes puissent être un jour identifiés. L'autre objectif majeur, c'est de contribuer à la pédagogie, notamment les publics jeunes. Nous accueillons beaucoup de Français, mais aussi beaucoup d'Allemands. Je suis convaincu que l'histoire très originale de ce tableau, de cet objet d'art, va contribuer à capter leur attention.
Le tableau sera donc exposé, restauré aussi, car endommagé par le soleil et le tabac, avant de rejoindre cet automne une grande exposition sur l'Europe en guerre.
David Philippot à Berlin. Un coup d'œil sur le temps, ensoleillé et très chaud, surtout à l'ouest. 45 départements ont été placés par Météo France en vigilance canicule du nord à l'Ariège. Les nuits notamment s'annoncent très chaudes. On attend 38 degrés à Bordeaux et Nantes, 35 à Paris, Vichy et Montélimar, 30 à Marseille et Belfort. Cette édition a été préparée avec François-Charles Domergue. Merci à lui.